Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B qui reprend du service après une semaine de congé. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, des employeurs recherchés pour le forum Job d'été du 4 bis Information Jeunesse, interview avec le réseau Territoires Accueillants d'Ille-et-Vilaine une semaine après la mobilisation de l'extrême droite à Dole de Bretagne. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un portrait de bénévole dans le cadre des 40 ans de Canal B et puis la recommandation du jour, deux conférences. Bienvenue dans l'arène. Chaque jour, on débute cette émission d'information locale avec l'info du jour, une parmi beaucoup d'autres que j'ai sélectionnée dans les médias locaux. Je passe sur la nouvelle mobilisation des taxis bretons ce lundi 4 mars à Rennes, en colère contre une nouvelle convention sur le transport médicalisé et aussi la concurrence des VTC, ces voitures de transport avec chauffeur. Aujourd'hui, on va plutôt en profiter pour relayer l'appel du 4 bis Information Jeunesse, le lieu central pour accueillir la jeunesse rennaise sur l'esplanade Charles de Gaulle et qui organise son traditionnel forum Job d'été et emploi saisonnier. 1500 jeunes avaient participé à l'édition 2023. Ils seront sans doute aussi nombreux cette année. Ça se passe mercredi 13 mars de 13 à 18h dans les locaux du 4 bis. Les employeurs intéressés, ils peuvent encore se manifester pour y participer. Que vous cherchiez du personnel sur la période juin-septembre ou simplement juillet-août, vous pouvez contacter Anne Charpentier pour participer à cet événement. Le site internet de l'association, c'est le4bis-ij.com. Sur les précédentes éditions, on retrouvait par exemple les secteurs de l'animation, de la grande distribution, de l'agriculture, du service à la personne, mais aussi du commerce et de l'hôtellerie-restauration. Un événement, on ne l'a pas dit, mais dont l'entrée est gratuite. Allez, après cette info, on passe à l'interview du jour. Jean-Luc Grosbois, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes l'un des co-secrétaires du réseau des territoires accueillants d'Ille-et-Vilaine qui a tenu à porter son soutien aux élus de Dole de Bretagne après l'opposition affichée de l'extrême droite à un projet social qu'on va détailler dans un instant. On vous avait déjà reçu en studio il y a un peu plus d'un an. On redit un mot sur le contexte de création de territoires accueillants qui s'est lancé en 2021, c'est ça ?
Oui, c'est un collectif qui s'est lancé sur un objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'associations et collectivités territoriales travaillent ensemble pour un meilleur accueil des migrants. Donc c'est une lutte à la fois politique, mais aussi un accompagnement des migrants qui arrivent sur le territoire d'Ille-et-Vilaine.
Il y a une charte d'engagement qui vous réunit. Oui. Et très concrètement, ce réseau, il a permis l'ouverture de maisons supplémentaires dans des communes pour accueillir des personnes exilées sans solution de logement. Est-ce que le mouvement s'est poursuivi là en un an ? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles adhésions ?
Oui, il y a eu de nouvelles adhésions. D'abord, la mairie de Rennes a accepté de signer, de venir avec nous sur la charte. Actuellement, on doit être à une douzaine de communes, à plus de 60 associations. Et certaines maisons donc ont pu être ouvertes. Il y a toujours de nouvelles maisons qui s'ouvrent, mais c'est difficile. C'est difficile notamment dans les campagnes. Bon, en ville actuellement, hélas, la chute du bâtiment, le marché du bâtiment qui ne va pas très bien, nous permet de garder des maisons beaucoup plus longtemps, puisque ce sont des maisons que les promoteurs avaient achetées et qu'ils nous donnent en commodat pour que on mette des migrants dedans et qu'on gère les maisons.
C'est avant tout un public de personnes qui sont un peu en bout de chaîne et sans solution de logement, pas donc des personnes réfugiées qui sont prises en charge par l'État, etc. quoi.
Non, il y a très très peu, il y en a quelques-uns, mais très très peu de personnes qui sont titrées, ce qu'on appelle titrées, c'est-à-dire qui ont un titre de séjour. Les trois quarts d'entre elles sont soit en attente d'un titre, soit ont été ce qu'on appelle déboutées par l'État, et donc ne sont sans papiers et sont sur le territoire. Bon, il nous faut les accueillir. Bon, il y a beaucoup de familles avec des enfants. Donc on ne peut pas les laisser à la rue et c'est pour ça que on travaille notamment sur ce sujet-là. L'objectif du collectif, c'est des associations qui sont séparées, qui travaillent sur tout le département, à Saint-Malo, Fougères, Redon, Vitré, etc. Et Rennes, bien sûr. Et l'objectif de ce réseau, c'est un des objectifs, c'est de mettre en commun nos problèmes, nos difficultés, nos solutions, pour voir si on peut mieux les accueillir.
Début 2023, quand on s'était parlé il y a donc un an, le réseau Territoire Accueillant apportait alors son soutien à une autre municipalité que Dole de Bretagne, dont on va parler dans un instant. C'était Callac, dans les Côtes d'Armor. Là, le projet de lieu d'accueil des réfugiés avait été mis en suspens suite à la mobilisation assez violente de l'extrême droite. C'est le souvenir que vous en gardez ?
Oui. Mais c'est la mairie, suite à ces obstacles, à ces difficultés, a souhaité laisser tomber. Et c'est dommage, mais elle n'a pas voulu aller au-delà. Mais on peut aussi comprendre le maire qui ne voulait pas que son pays devienne une zone d'affrontement.
Puisqu'il y a eu des violences, des intimidations de la part de l'extrême droite à travers le parti Reconquête. Et puis il y a même eu une plainte de déposer de la part des porteurs de projets, donc de ce lieu d'accueil des réfugiés, envers les militants qui étaient mobilisés. Il y a un nouveau projet qui est sur le point d'aboutir, c'est celui d'un centre d'accueil géré par le département pour cette fois accueillir des MNA, des mineurs non accompagnés. On est donc à 45 minutes au nord de Rennes, à Dole de Bretagne. Un projet en fait qui est sur le point d'ouvrir, on n'en est pas du tout à la même étape qu'à Callac.
Non, et puis surtout il ne s'agit pas totalement du même projet. Là c'était un centre volontaire d'accueil de migrants. Là il s'agit d'un centre d'accueil de mineurs étrangers non accompagnés. Alors c'est le département qui porte ça et non la ville ni un organisme privé. Le département, de par ses compétences au niveau national, doit protéger et accueillir l'enfance. Et donc il le fait pour les enfants de français, bien sûr. Mais il doit le faire aussi pour les mineurs non accompagnés et étrangers qui arrivent sur le territoire. Donc c'est de ses compétences et il a, de par la loi, le devoir de faire cela. Alors il a déjà un certain nombre de centres d'accueil de ces migrants non jeunes et non accompagnés. Le problème, c'est qu'il veut en ouvrir d'autres et c'est sa volonté d'ouvrir un nouveau centre à Dole qui a provoqué cette réaction de Reconquête.
Ce sont 30 places qui vont ouvrir donc dans une ancienne auberge de jeunesse à Dole de Bretagne, qui est une commune d'environ 6000 habitants. Et l'ouverture, elle est attendue là pour le premier semestre 2024. Et on discute donc une semaine après une double mobilisation sur place. Une quarantaine de militants d'extrême droite, à la fois du parti politique Reconquête, lancé par Éric Zemmour, mais aussi d'un groupe rennais qui s'appelle l'Oriflamme, qui est un groupe qualifié de néo-nazi par le Mediapart, était donc réuni le 24 février à Dole de Bretagne. Et en face, il y avait environ 200 habitants et puis surtout des militants associatifs politiques qu'on va classer à gauche, eux favorables au projet. Vous n'y étiez pas, mais comment est-ce que vous avez observé ce moment où il y avait des membres du réseau Territoire Accueillant qui étaient présents ?
Bien, c'est d'une part qu'il y a une réaction salutaire des citoyens, parce que c'est personnes qui sont mal informées ou ces partis, en fait, veulent utiliser la peur naturelle qu'on peut avoir de l'autre, pour la transformer en haine. Et la question qu'on peut se poser, c'est, mais si on ne les accueille pas, que vont devenir ces jeunes qui sont déjà sur notre territoire quand ils seront adultes, si on ne sait pas les accueillir, les éduquer, etc. Donc c'est incompréhensible, mais en face de ça, je crois qu'il y a naturellement, puisque la mobilisation s'est faite en quelques jours. On trouve des gens qui disent non, on est contre, et j'espère que de plus en plus le grand public pourra assurer cette mobilisation en disant on refuse d'avoir peur, on refuse qu'on transforme notre peur en haine.
Je complète en ajoutant que donc dans les médias locaux, je crois l'avoir lu sur Ouest France, le maire a appelé ses administrés à venir sur place témoigner de leur soutien pendant cette mobilisation. Je cite, de manière à ne pas donner l'idée que Dole de Bretagne est une terre de mission pour les gens qui sont racistes et qui ont peur de l'étranger. Toujours sur ce quotidien local, Ouest France, on lit que la mobilisation de l'extrême droite a fait pchit. Il y a quand même, depuis quelques années, une montée de l'extrême droite à Rennes qui, en tout cas, se montre
même si c'est masqué pour les membres de l'Oriflamme, mais qui se montre, qui agit et qui s'exprime violemment, et tout ça au grand jour. Vous êtes d'accord sur cette montée de l'extrême droite, vous l'observez ?
Oui, c'est ce que tout le monde sent, c'est ce que tout le monde regarde. L'autre jour, j'entendais un adjoint au maire de Rennes qui disait « maintenant, on reçoit des mails publics, c'est pas Tartempion sous un faux nom, c'est des gens qui s'affirment sous leur nom » et qui disent, on ne veut pas d'un tel parce qu'il n'est pas comme nous, parce qu'il ne nous ressemble pas, parce qu'on a peur, parce que, voilà.
On fait quoi face à la haine comme ça ?
C'est pas facile de faire face à la haine parce que, notamment, le grand public est interpellé par la télé, par une certaine télé qui déverse aussi un peu pas des appels à la haine, mais des informations ou qui présentent ces informations de telle manière qu'on puisse avoir peur.
On peut ajouter qu'un membre de l'Oriflamme, là, ce groupuscule rennais ancré à l'extrême droite, a été condamné en fin d'année dernière à 4 mois de prison pour incitation à la haine. Après, c'était une perturbation lors d'une lecture organisée par des drag queens à Saint-Snoux, toujours en Ille-et-Vilaine. Sur ce lieu d'accueil, donc des mineurs non accompagnés, vous avez déjà un peu évoqué en quoi il était nécessaire. Il faut aussi qu'on dise que les dispositifs d'accueil actuels sont saturés, qu'il y a un nombre de mineurs non accompagnés qui est en hausse, un peu plus de 80 jeunes par rapport à l'année dernière. Et c'est une obligation donc pour les départements de les accueillir. Ce centre-là qui va voir le jour, il y en a en fait une vingtaine d'autres dans le département qui ont une mission essentielle, quoi.
Oui, sinon une mission essentielle. Et d'ailleurs, il faut soutenir le département, c'est-à-dire que notre communiqué de presse, bien sûr, soutenait la mairie de Dole, mais aussi le département qui est à l'origine de ça et qui essaye de faire de son mieux pour accueillir les migrants. Je voudrais juste ajouter une chose. Vous avez parlé à la fois de Saint-Snoux et de Dole. Il faut savoir qu'à Saint-Snoux et à Dole, nous avons des associations qui accueillent des migrants, alors des migrants pas des jeunes, pas des non accompagnés, mais des adultes, et qui accueillent aussi volontairement ces migrants. C'est-à-dire qu'il y a des militants un peu partout, y compris à Saint-Snoux et à Dole.
Des militants mobilisés pour le droit des personnes exilées. Et puis, il faut le redire que notamment sur la mobilisation du parti politique Reconquête, il y a des militants qui ne sont pas du tout de la région, qui viennent, renforcer les troupes présentes sur place lors de ce genre de mobilisation. Dernière question, vous la sentez comment, la suite ? On ne peut pas revivre un deuxième Calac, je pense. Le projet est beaucoup trop avancé.
Oui, non, là, je pense. C'est pas de même nature. Là, c'est une obligation du département. Je ne vois pas comment il peut faire autrement, ou alors il va le proposer dans un autre lieu, mais alors, il a déjà acheté l'auberge de jeunesse, etc. Je ne vois pas bien comment il pourrait. Puis heureusement, nous avons un département quand même, et des dirigeants qui essayent de se battre pour cet accueil digne. C'est un problème de solidarité, c'est un problème d'humanité, tout simplement.
Et peut-être pour terminer avec un mot sur vos actualités, vous l'évoquiez hors micro, vous avez été, mobilisé sur le sujet de la loi immigration qui a été adoptée un peu au forcing il y a quelques mois. Il y a un autre projet de loi à venir, mais à l'échelle européenne, qui vous interroge un peu ?
Oui, c'est-à-dire que la loi dite Darmanin donc, a été votée. Nous avons, le 10 février dernier, nous avons organisé un décryptage de cette loi pour savoir quelles étaient les conséquences. Nous avions une centaine de participants qui écoutaient des juristes nous expliquer. Il va y avoir, dans le cadre du RTA, un petit groupe qui va essayer de continuer à décrypter la loi et surtout voir quelles sont les conséquences de cette loi. Mais par ailleurs, et on en parle beaucoup moins, il y a un pacte européen qui devrait être voté au mois d'avril en Assemblée européenne, lors de sa dernière session, puisqu'il y aura des élections après. Et ce pacte européen nous inquiète un peu parce que, là aussi, son objectif, c'est de bloquer les migrants à l'arrivée des frontières européennes. Donc ils veulent essayer, en mettant en place des zones un peu extraterritoriales, pour filtrer toutes les personnes qui veulent venir sur le sol européen.
Selon la nationalité.
Oui, l'un des critères sera la nationalité. Ça nous inquiète un peu parce que même le statut de réfugié n'est pas lié uniquement à un statut politique, mais il peut être lié à des problèmes d'orientation sexuelle, à des problèmes de lutte contre mafias rivales, etc. Et ça nous inquiète un peu. Alors on attend de voir ce pacte européen, mais aujourd'hui on est un peu inquiet sur ce pacte européen qui s'appliquera d'office à tous les États, y compris à la France.
Je vous représente Jean-Luc Grosbois, vous êtes donc l'un des co-secrétaires du réseau des territoires accueillants d'Ille-et-Vilaine qui a tenu à apporter son soutien aux élus de Dol de Bretagne après l'opposition affichée de l'extrême droite à un projet, un futur lieu d'accueil pour 30 mineurs non accompagnés qui va bientôt ouvrir ses portes. On peut vous retrouver en ligne sur un site internet et puis sur une page Facebook dédiée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Tes yeux sont des hameçons, mon cœur est un poisson. Mon cœur est une truite, comme si de rien n'était. Tu commandes un cornet de frites, serviette en papier. Serviette en papier. Ta bouche est un collet, la mienne naît encore. Qu'un lapin qui s'agite, comme si de rien n'était. Commande une mort subite. Serviette en papier. Serviette en papier. Voilà les animaux, l'un pense à son gosier, l'autre prépare sa fuite. Mes pensées sont au dos d'une serviette en papier, écrite, serviette en papier.
Nicolas Jules et son morceau « Serviette en papier ». C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur musical ici à la radio. Et c'est un morceau tiré de l'album « La reine du secourisme » sorti le 13 février dernier. Et c'est déjà le 10e album de ce musicien français Nicolas Jules que vous venez d'entendre dans « La reine », l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes sans doute branché sur le 94.0, mais vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur le site canalb.fr où sont par ailleurs disponibles l'ensemble des podcasts des émissions réalisées par des salariés, mais aussi par des bénévoles. Et tiens, on parle de bénévoles dans le reportage du jour. Vous allez en entendre une. C'est le premier épisode d'une série de portraits de bénévoles à Canal B, puisque nous fêtons nos 40 ans cette année. Alors vous entendrez dans différentes émissions des entretiens avec ceux qui font exister le projet associatif de la radio au quotidien. Ils sont 90 aujourd'hui, des bénévoles. Et aujourd'hui, on va passer un peu de temps avec Céline. Elle anime l'Échappée Belle. C'est à écouter le dimanche à 18h, une semaine sur deux. Et dans le reportage, vous entendrez des extraits de sa dernière émission à retrouver en podcast sur canalb.fr.
40 ans, non ce n'est pas possible. 40 ans, 40 ans, 40 ans, 40 ans,
pas mignon.
Hello, hello, c'est l'échappée belle sur Canal B. On commence tout de suite cette nouvelle émission avec Molly Lewis, jeune siffleuse australienne et californienne d'adoption à l'univers hyper cinématographique et que vous avez peut-être eu la chance d'entendre au Trans en 2021. On the Lips, son nouvel album, vient de sortir et le très doux Lounge Lizard en est extrait. Alors, je m'appelle Céline Huneau, j'ai 42 ans et j'anime l'échappée belle. Alors, qui je suis ? Je pense que ça commence par être une lectrice. Du coup, j'ai été libraire et maintenant je suis commerçante et je vends toujours du livre dans les boutiques. En fait, j'ai deux boutiques. J'ai une première boutique qui a fêté ses 10 ans et qui est une boutique collective. Elle s'appelle Mint. En fait, je travaille avec deux créatrices de bijoux et on était quatre, mais maintenant on est trois et ça n'a pas bougé. C'est la même équipe. Et pour Boa, je l'ai créée à la sortie du confinement. Moi, le confinement, ça a été une période introspective plutôt cool et qui m'a poussée, non pas dans des retranchements négatifs, mais plutôt dans des choses positives. Chez Boa, en fait, on y trouve donc des livres, comme je disais, on y trouve des objets. En fait, c'est une boutique qui a été montée autour de plusieurs de mes passions, des choses qui sont très personnelles, et c'est un petit peu comme si j'invitais les gens chez moi. C'est assez bizarre de le dire comme ça, c'est pas du tout dans un côté égo, mais c'est plutôt dans le sens où de partager des choses que j'aime. Et du coup, on va retrouver tout un univers autour des arts, de la nature et aussi de la femme. Je suis arrivée à Canal B en 2010. J'avais écrit un mail à Yvan. En fait, l'échappée belle existait déjà. Elle était sur une autre station de radio qui n'existe plus, en fait, qui s'appelle Zénith FM.
À Vitré.
Oui, à Vitré, il y avait aussi La Couillère. Moi, il y avait deux studios et deux stations différentes. J'ai fait les deux stations. On n'était pas sur le même type forcément de radio et c'était très chouette, le Zénith FM. Mais envie de changer. Et en fait, il y avait juste un endroit où j'avais envie d'être. On était deux dans l'émission et où on avait envie d'être, c'était Canal B. Voilà, on a envoyé un mail à Yvan et en fait on a très vite enregistré un pilote et qui a été notre première émission qui a été diffusée.
Donc ça, c'était en 2010. Là, ouais. On se retrouve en 2024. Il s'est passé quoi en 14 ans sur cette émission ? Est-ce qu'elle a évolué ?
L'émission, oui, elle a évolué. Déjà, à la base, c'était en duo. Donc, j'étais avec Arnaud. La pop arène était un peu plus effervescente, on va dire. Donc, il y avait un peu plus de local. On pouvait avoir de temps en temps des invités. Et c'était un peu plus rock aussi. Et en fait, Arnaud est parti à changer de région. Et je ne savais pas trop si, comment faire. Et en même temps, j'avais commencé la radio toute seule, donc j'ai continué toute seule. Et l'émission a évolué et évolue toujours au fil de la pop. En fait, elle peut avoir par moments des côtés beaucoup plus pop baroque ou psyché ou très plus indie, mais voilà, en gros, elle a évolué avec moi. Je pense que elle s'est apaisée avec l'âge, tout simplement. Je suis moins survoltée, c'est plus pensé. Et s'il y a eu un gros changement dans l'échappée belle, c'est que je suis passée du direct à un enregistrement studio. Du coup, le côté discussion ou spontanéité, voilà, est parti. Mais j'ai essayé de le combler par quelque chose de plus concis, précis et par un truc pas irréprochable, mais en tout cas qui n'avait pas les failles du direct, c'est-à-dire des choses où je pouvais chercher mes mots. Voilà.
Après avoir sorti Several Songs About Fire, enregistré avec John Parrish, Andrew Savage, co-leader de Parquet Courts, revient avec le très élégant Black Holes, The Stars on You.
Peut-être sur la voix, on peut en parler maintenant. Comment est-ce que tu décrirais ta voix et est-ce que ça a été facile de la poser ?
Non. En fait, l'apprentissage d'entendre sa voix dans un casque et ensuite de pouvoir l'écouter pour l'envisager éventuellement comme un matériel, je sais pas, ou comme quelque chose qui sort de toi mais qui t'appartient plus, sans jugement et sans truc affectif, c'est très compliqué. En fait, moi j'ai commencé la radio quand j'étais en fin d'adolescence. J'ai intégré une émission qui existait déjà et c'était pas choisi. J'ai mis beaucoup de temps à parler au micro, j'ai mis beaucoup de temps à supporter le casque sur les oreilles. Ma voix, j'ai mis beaucoup de temps à faire un mi-mi avec elle, aussi parce que je parle pas fort en temps normal. Et souvent, ça a été reproché. Donc à la radio, j'avais l'impression que c'était complètement impossible avec toutes ces voix très graves. C'était une émission avec des garçons.
Qui parlaient de musique ?
Oui. Exactement. Et du coup, c'était pas le fait de pas me faire entendre sur le sujet parce que je me sentais pas légitime, mais c'était pas le fait de pas me faire entendre par juste la voix. J'avais pas du tout confiance en moi. Et ça a été très long. Et je pense qu'il y a que depuis vraiment que je suis toute seule et que j'enregistre mon émission que là, j'ai plus aucun problème à m'entendre.
Est-ce que ça peut changer des choses dans la vie en dehors de la radio d'apprivoiser sa voix ?
Oui, moi ça a changé parce que c'était un complexe en fait. J'en parle très peu. Intervenir en classe, ça me posait pas problème en soi. C'était juste que j'avais l'impression que ma voix, personne l'entendait. Et en fait, moi quand on me disait parle plus fort ou tout ça, ça me bloquait parce que c'est juste que je parle pas fort. C'est comme ça, j'y peux rien. Ou alors j'ai des oreilles très sensibles et que du coup tout est trop fort. Mais parler devant des gens où on demande l'attention aux gens parce que vous parlez pas fort, c'est stressant. Et après, la radio. C'est comme une volte-face, c'est presque... Ouais, c'est très drôle que je fasse de la radio. En fait, je pense que ça m'a appris à la poser ou à calmer. Même moi, des fois, quand je m'enregistre, je sens que j'ai un débit un peu rapide et que d'un coup, je vais essayer de tranquillement le ralentir ou je vais réussir à capter l'attention. Effectivement, peut-être que les gens vont être obligés de faire silence parce que de toute façon, je vais pas timbrer à mort. Donc, s'ils veulent m'entendre... Et puis, on va dire, l'autorité ou la prestance ou plein de choses passe pas par une grosse voix, hein, forcément. C'est ce que j'ai appris, en fait.
Impossible de se lasser de Dream Siege, la collaboration entre Michael No et Seth Kaufman de Floating Action et de ce Now On, sorti en 2020. On continue avec l'artiste et poète américano-canadienne Danielle Aykroyd, dont le nom d'artiste est Vera Sola. Elle joue une folk hantée et somptueusement arrangée. Desire Pass est extrait de Peacemaker, son deuxième album studio sorti début février.
On y entend dans ton émission donc L'Échappée Belle et puis comment tu construis tes émissions autour des artistes que tu choisis.
Alors on y entend des musiciens et musiciennes qui font de la pop. Il y a toutes les pop, mais il y a quand même une base pour moi très anglaise. J'ai beaucoup écouté donc plus jeune les Beatles, les Stone Roses, et je pense que ça influence vraiment maintenant mes choix musicaux. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a un côté très classique, et en même temps, une fois qu'on a des contraintes qui sont très classiques, on peut partir en tous les sens. C'est Yvan qui a fait la définition, entre guillemets, en tout cas les quelques mots sur L'Échappée Belle, sur le site de Canal B, et je crois que c'est genre les grandes avenues de la pop et les chemins de traviole. Et en fait, je trouve que c'est assez résumé. Que ce soit un groupe, on va dire, qui est reconnu, ou que ce soit une artiste qui fait de la bedroom pop dans sa chambre, pour moi, elle va être au même niveau. Mmh. En fait, il n'y a pas d'hierarchie, en fait, c'est juste que ça me touche. J'écoute beaucoup de musique, donc maintenant, j'ai l'habitude, entre guillemets, de diguer tout le temps. Ça peut être même une source d'inspiration qui peut être, comment dire, visuelle, en fait. Ça peut partir d'une pochette d'album. En fait, je fais partie de cette génération qui a écouté de la musique en vraiment scrutant les pochettes d'albums, en lisant les livrets, en dépouillant, quoi, en cherchant. Et du coup, je pense que c'est un peu resté. En gros, en fait, au fil de la semaine, je vais noter, en gros, on va être très basiquement sur un Google Agenda, je me note les sorties ou des trucs que j'aime bien. Bon, c'est sur mon Google Agenda qui fait aussi le travail, et ou des trucs qui vont sortir, ou que j'ai entendu, ou j'ai lu un article, je sais pas, d'un blog, ou même sur Stereogum, ou sur plein de choses, en fait, même dans la presse. Et ensuite, je vais me faire une grosse phase d'écoute. J'arriverai pas à décrire vraiment la ligne de L'Échappée Belle, mais moi, en tout cas, quand j'écoute, je sais quelle est la ligne. Je cherche les morceaux, je sais qu'il faut que j'arrive à peu près à 50-52 minutes de morceaux. Et souvent, il y a une ambiance qui se dégage, qui doit être un peu de mon humeur, on va dire, du moment. Et on arrive à 14 morceaux à peu près, qui correspondent vraiment en tout cas à ce que je veux, mais j'arrive pas à trop à... Il n'y a pas de thématique, vraiment. S'il manque un morceau, ça peut me prendre plus de temps que les 13 autres, en fait. C'est pas juste... N'importe quel morceau va faire l'affaire, non, c'est pas le cas. Ensuite, j'essaie quand même de regarder la qualité de la personne qui fait la musique, c'est-à-dire que s'il a été dans des embrouilles ou quelque chose que moi je valide pas, bah il sort. Ça a été encore le cas hier soir quand j'ai préparé mon émission. Je me suis rendu compte que le 13e morceau qui était prévu était le projet solo d'un artiste qui avait été accusé d'attouchement sexuel au minimum. Et comme c'était un projet solo qui était en catimini, c'était pas sous le nom de son groupe. Mais du coup, en gros, il est sorti de la playlist. J'essaie que ce soit un truc cool pour moi et que j'assume totalement. Et après, en général, je vais enchaîner les morceaux. Moi, ce que j'appelle enchaîner les morceaux, c'est que j'aime bien que l'échappée belle soit pour les gens un endroit où je les emmène et que clairement, je décide un peu le chemin qu'on va prendre et que des fois, il y a des émissions qui vont être plus électro, même si ça reste de la pop, hein, plus complètement psyché, barré, voire narcotique. Hein, et puis, du coup, je vais enchaîner les morceaux pour que ça monte en pression ou que ça redescende, tout simplement. Et ensuite, je travaille le conducteur. C'est souvent en plusieurs jours, parce que c'est un peu très dense pour moi. Et puis, en général, à ce moment-là, je trouve un visuel libre de droit, en fait, pour l'émission, puisque je l'ai conçu comme un tout. Et on va dire que la boucle est bouclée. Floating far away,
The Boat, extrait de Please Wait, le nouvel album de Maxwell Farrington et le super Omar, avant de retrouver One More, d'Astral Bakers, aux quatre musiciens confirmés, Zoé Hochberg, Théodora, Sage et Nico Lockhart. One more Shiva
you hide behind your laughter. Tu viens en studio le lundi matin sur un créneau de 2 heures. Quelle place tient ce moment dans ta semaine et dans ce que tu fais à côté de la radio?
C'est bizarre parce que je me pose souvent la question, en fait. Qu'est-ce qui me mène, ce fil en fait, qui m'emmène dans le studio toute seule le lundi matin alors que c'est mon day off et que des fois j'ai envie que je pourrais dormir en fait. Ça fait tellement longtemps que ça fait partie de ma vie que je sais pas si c'est un truc presque monacal, disciplinaire, ou si c'est carrément une thérapie, moi je sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois que j'arrive dans le studio, que je suis toute seule dans cet endroit, c'est feutré, il y a une odeur, tout est un peu filtré, je peux entendre les bruits qui sont extérieurs au studio, mais... c'est ma zone, c'est ma chambre. Moi, je sais pas, il n'y a pas de jugement, en fait. Il n'y a rien d'extérieur. Oui, c'est vraiment ma bulle. En plus, c'est vitré, donc c'est vraiment comme une bulle.
Comment tu présenterais Canal B à ceux qui ne connaissent pas cette radio?
Si je reviens en 2010 et tout ça, pourquoi je suis arrivée à Canal B? C'est que je trouve que c'est vraiment l'héritière des radios libres. Et que... en l'écoutant, en fait, ça avait l'air, les gens avaient l'air heureux de faire leur émission. Y a des émissions qui sont là depuis très longtemps, que moi-même j'écoute depuis très longtemps. Et je sais pas, du coup, c'est vraiment la pluralité. Je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose. Alors, j'écoute beaucoup moins parce que, en ayant une boutique, je choisis moi-même mon ambiance musicale, on va dire ça comme ça. Je l'écoute beaucoup moins, en tout cas en journée. J'écoute beaucoup l'Olipop, ne serait-ce pour savoir si je suis dans le vrai ou pas. Voilà, après, je vais écouter aussi moins les autres émissions musicales, mais du coup, je vais écouter Yann et je vais écouter La Reine. Voilà.
Tu es auditrice d'autres radios ou même d'autres projets, podcasts en ligne?
Actuellement, je pense que la chose que je préfère écouter, c'est Habitude. C'est une émission qui est dédiée au vestiaire masculin.
Je me présente, je m'appelle Vincent Dedienne, ça n'est pas une particule. Et je suis comédien et humoriste.
Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette.
Comment étaient habillés mes parents,
très bizarre en disant ça, mais en fait, ils interrogent des artistes, quels qu'ils soient. Maintenant, c'est ouvert aussi plus à des femmes. Et en fait, on entre dans un monde où le vêtement, vraiment la notion de vestiaire, fait la personne, en fait, socialement. Et on se rend compte de comment même un transfuge de classe peut apparaître au travers de ses vêtements. C'est hyper intéressant.
Mais qui était un peu le magasin quand même un peu chic de Macon, mais vraiment consacré au vestiaire masculin.
Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes Échappées Belles sur canalb.fr. À dans deux semaines sur Canal B.
Bye Bye Badman par The Stone Roses. C'était le choix musical de Céline, dont vous venez d'entendre le portrait radiophonique, et elle a choisi un morceau de 1989 à retrouver sur le premier album éponyme des Stone Roses, formation de rock alternatif britannique, qui s'est séparée après seulement deux disques en 1996, avant de se reformer entre 2011 et 2017. Vous êtes toujours dans l'Arène, l'émission d'info locale de Canal B. Avant de se quitter, la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Et aujourd'hui, on annonce deux conférences organisées par l'association Champs de Justice. Il se trouve que j'anime l'un de ces deux rendez-vous, donc je n'y consacrerai pas de sujet plus long, mais je vous en dis quand même un mot, comme sur tous les temps forts qui sont proposés par cette association. Vendredi 8 mars, c'est d'abord l'historienne Michèle Perrault qui vient à Rennes. Ça se passe à Rennes Métropole à 14h. Au 31 décembre 2023, 2490 femmes étaient emprisonnées contre 84 707 hommes, pour être très précise. Alors, y a-t-il une spécificité dans le traitement pénal et pénitentiaire entre les sexes? C'est la question qui sera explorée en compagnie d'une pionnière de l'histoire des femmes, mais aussi spécialiste de l'histoire des prisons. C'est Michèle Perrault. À l'animation, on retrouvera Frédéric Chauveau, il est spécialiste du crime et de la justice, pour une conférence qui est organisée en partenariat avec la ville de Rennes, les presses universitaires de Rennes et la librairie Le Fayère. Seconde proposition qui vient toujours de Champs de Justice, un débat cette fois avec les juges Renaud Van Ruimbeek et Eric Alphen. Rendez-vous à la Maison des associations de Rennes, jeudi 14 mars à 18h30. Le sujet de cet échange, ce sera l'indépendance de la justice en France, une indépendance garantie par la Constitution de la Ve République, mais parfois empêchée par le pouvoir, comme le raconteront ces deux juges, célèbres pour l'instruction d'affaires politico-financières. Les tarifs vont de 1 à 5 euros, et pour les réservations, pour les deux rendez-vous qu'on vient d'annoncer, ça se passe en ligne sur champsdejustice.fr. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.